Bonjour à tous. Alors, en ce dimanche des rameaux, vous l'avez bien compris, Jane nous a lu dans la première partie de ce culte, et nous avons eu aussi dans les 5 minutes enfants, la lecture de textes qui ont raconté l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et dans cette prédication, nous allons à un moment reprendre certains de ces textes. Dans la première partie, nous avons vu ces textes dans une optique de louange, une optique d'adoration de notre Dieu. Là, nous allons essayer de chercher à comprendre. Chercher à comprendre cet accueil que Jésus reçoit. C'est un accueil à la fois grandiose, merveilleux, mais aussi très étrange. Parce que là, le peuple crie « Hosanna », nous l'avons rappelé. « Gloire à toi, louange à toi ». Mais à peine quelques jours après, ils auront un cri bien différent. « Crucifie-le ». Et je pense que si nous cherchons à comprendre les raisons de l'accueil glorieux de Jésus à Jérusalem, nous pourrons alors également comprendre les raisons du rejet très fort, extrêmement brutal, qui suivra quelques jours à peine après l'événement des rameaux. Mais avant de chercher à comprendre ce qui se passe durant cet accueil, il faut essayer de se mettre à la place de cette foule, il faut essayer de se mettre dans leur tête, dans leur peau, dans la peau de la foule qui accueille Jésus. Et pour ça, il faut d'abord remonter très longtemps en arrière, jusqu'au temps du roi David, c'est-à-dire aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ. À l'époque, Dieu a fait une promesse au roi David. Et cette promesse, nous pouvons la lire en 2 Samuel 7, les versets 12 à 16. « Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Alors, que dit cette promesse? Elle dit qu'après le règne de David, son fils sera roi, qu'il construira un temple pour Dieu, que Dieu sera avec lui et qu'il maintiendra son trône pour toujours. Alors on peut comprendre cette promesse comme annonçant le règne du fils direct de David, c'est-à-dire Salomon. Et en effet, Salomon a été roi après David, il a fait construire un temple, le temple de Dieu, dans la ville de Jérusalem, tout comme cette promesse l'a annoncé. C'est vrai. Mais cette promesse parle aussi d'autre chose. Parce que Dieu promet que le règne de ce fameux fils de David n'aura pas de fin. Mais Salomon est un homme et il en est venu à mourir. Et son règne a pris fin. Pire encore, la dynastie de David s'est arrêtée. Au moment de notre texte, il n'y a pas de roi en Israël. La lignée des rois est finie, elle est terminée. Donc, ça ne parle pas que de Salomon, ça ne parle pas que de la lignée humaine de David. Non, un certain fils de David doit venir sur terre, on ne sait pas quand, dans cette promesse, et il doit être roi pour toujours. Et David lui-même comprend cette promesse dans ce sens, parce que voilà sa réaction lorsqu'il entend cette promesse de Dieu. Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. « Seigneur Éternel, qui suis-je? Et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Et comme si ce n'était pas déjà suffisant à tes yeux, Seigneur Éternel, voilà que tu fais encore à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. » David comprend que la promesse que Dieu vient de lui faire parle d'un avenir lointain. Pas que de son fils immédiat. À partir de ce moment-là, le peuple d'Israël attend la venue de ce fameux fils de David qui doit être leur roi pour toujours. Ça, c'est à l'époque de David. Donc, comme nous l'avons vu, aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ. On va faire un bond en avant, un bond de 500 ans. Vers l'an 500 avant Jésus-Christ, donc bien plus tard, le prophète Zacharie a donné quelques précisions sur la venue de ce fameux roi, ce fameux fils de David. Jane nous a lu ce texte en première partie, nous allons le relire, il est très court. Au chapitre 9 du livre de Zacharie, les versets 9 et 10. Tressaille d'allégresse aux communautés de Sion, pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem, car ton roi vient vers toi, il est juste et sauvé. Humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé, le roi établira la paix parmi les peuples. Sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. Dans cette nouvelle promesse, ce fameux roi doit venir sur un âne. Alors, ça peut nous sembler un peu ridicule à nous. L'âne, c'est pas un animal qui a une image très valorisante de nos jours. Mais à l'époque, il faut savoir que pendant très longtemps dans l'Orient ancien, l'âne a été la monture des rois. Les rois se devaient de rentrer dans une ville conquise par une victoire militaire ou rentrer dans leur capitale pour un triomphe, monter sur un âne. C'était la monture des rois. Puis après, les rois ont changé, ils ont préféré le cheval. C'est devenu après le cheval, la monture royale. Donc ce fameux roi doit venir sur un âne, l'ancienne monture des rois. Il doit apporter la paix, nous dit Zacharie, et il doit étendre sa domination jusqu'aux confins du monde. Voilà ce que Zacharie nous apprend sur ce roi, sur ce fils de David qui doit venir. Et le peuple d'Israël attend ce roi. Mais si un roi vient pour Israël, il faut qu'il y ait un royaume d'Israël. Sans royaume, pas de roi. Sans roi, pas de royaume. Et là, ça coince un petit peu. Ça coince parce qu'à partir de l'an 76 avant Jésus-Christ, on fait à nouveau un bond en avant, à partir de l'an 76 avant Jésus-Christ, Israël est sous le contrôle d'un empire, l'Empire romain. Alors, c'est pas un contrôle extrêmement fort et dur, hein, il est plutôt lâche. Les Juifs gardent une certaine autonomie, même une assez grande autonomie. Ils ont par exemple la liberté d'appliquer leur propre loi à eux. C'est pas l'Empire qui va imposer une loi. Tout ce que veut l'Empire, c'est qu'on leur verse un impôt tous les ans, l'impôt dû à César. Mais le pays est assez libre, mais il reste occupé. Ils ne sont pas complètement libres. Israël, c'est même plus un pays. Ça n'existe plus en tant que pays. C'est qu'une province de l'Empire romain, la province de Judée-Samarie. Il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de royaume. Le peuple d'Israël n'a pas de royaume, mais il attend un roi. Et justement, ce roi qui doit venir, d'après les promesses de l'Ancien Testament, il doit étendre sa domination jusqu'aux confins du monde, selon le prophète Zacharie. Pour le peuple, ça veut dire qu'il va venir les délivrer de l'occupation romaine. Il va leur donner la victoire, il va rétablir le pays. Il va faire d'Israël la plus grande puissance du monde, et pour toujours. Il sera leur roi. Voilà ce que le peuple comprend des promesses de l'Ancien Testament à cause de ce qu'il est en train de vivre, l'occupation par l'Empire romain. Quand Jésus vient au monde, nous l'avons vu, Israël est une province romaine. Et le peuple ne fait pas qu'attendre la venue du roi qui doit les délivrer, il se prépare aussi à cette venue. Ils sont prêts à suivre ce roi et ils sont prêts à se battre à ses côtés, pour délivrer le pays, délivrer le peuple. Du coup, quand Jésus vient au monde, la province de Judée est une province extrêmement instable. Il y a régulièrement des révoltes, des soulèvements, parce que le peuple attend tellement ce roi, ce fils de David qui doit venir, que dès qu'une personne un peu charismatique commence à parler de révolte ou d'indépendance, Eh bien, plein de gens le suivent, pensant que c'est peut-être lui, le roi promis. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'on a des traces de ça dans la Bible. À un moment donné, dans le Nouveau Testament, les autorités juives commencent à avoir peur des disciples de Jésus, qui commencent à rassembler pas mal de monde. Et les chefs du peuple veulent éviter à tout prix une autre révolte. Ils veulent éviter que l'Empire romain vienne à nouveau amener ses armées pour mater une révolte. Alors ils discutent de la question entre eux, ces chefs du peuple juif. Et voici ce qu'ils disent, en acte 5, les versets 35 à 39. Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Ces hommes, ce sont les disciples de Jésus. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelque 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et l'on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une, ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes, et dans ce cas leur mouvement disparaîtra, ou bien il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis. Dans ce texte, les chefs du peuple se demandent si ce mouvement vient de Dieu, donc de ce fameux fils de David qui doit venir, ou bien si c'est encore un illuminé qui va amener une révolte de plus, et donc des sanctions militaires de plus. Et du coup, ils en citent plusieurs qui ont essayé de soulever le peuple en se faisant passer pour ce fameux roi qui doit venir. C'est dans ce contexte-là que Jésus arrive sur terre. La province de Judée est très instable, toujours proche de la révolte, et elle attend le roi promis, ce fameux fils de David, pour les mener au combat, les mener à la victoire. Jésus est quelqu'un de très charismatique. Les textes du Nouveau Testament nous disent qu'il captive les foules. Il étonne tout le monde par son enseignement et son autorité. Il réalise aussi énormément de miracles, des miracles incroyables. Il guérit des lépreux, il chasse des démons, il donne la vue à des aveugles, il calme la tempête. Bref, il attire l'attention de ce peuple qui attend un roi. De plus, dans sa prédication, Jésus annonce la venue du royaume de Dieu. Donc pour les Juifs de l'époque, si le royaume de Dieu est proche, c'est que le roi est là. Et des foules entières se mettent à suivre Jésus, pensant que c'est lui le roi qui doit venir, le roi qui doit les délivrer. D'ailleurs, un des disciples les plus proches de Jésus, un des 12, les 12 disciples qui deviendront les 12 apôtres, un de ces disciples s'appelle Simon le Zélote. Et ce mot « zélote » désigne en fait un groupe de juifs révolutionnaires. Les Zélotes sont des juifs qui se préparent à une seule chose, la révolte que doit conduire le roi promis. Et si un Zélote fait partie des disciples les plus proches de Jésus, c'est qu'il a dû reconnaître en lui ce fameux roi qui l'attend pour les mener à la victoire. Alors, il faut admettre que le peuple n'a pas tout à fait tort. Jésus est bien ce fils de David, ce roi qui doit venir. Et s'il vient sur terre, c'est bien pour libérer son peuple. Mais il ne vient pas pour faire la guerre. Il ne vient pas pour libérer les Juifs de l'Empire romain. Il ne vient pas pour avoir une victoire et un royaume terrestre. Non. Jésus, le Fils de Dieu, vient sur terre pour libérer les hommes de l'esclavage du mal. Pas d'un mal extérieur, pas d'un envahisseur, mais du mal qui est en nous. Qui est dans notre cœur, qui est dans nos pensées, qui est dans nos actes. Ce mal nous coupe de Dieu, il nous empêche d'avoir une relation avec notre Créateur, il nous condamne à vivre pour l'éternité loin de Dieu. Mais par amour pour nous, Dieu a décidé d'envoyer son Fils sur terre pour venir nous rencontrer, pour venir nous parler de Dieu, nous apprendre à le connaître, lui et sa volonté pour nous. Il est venu pour établir la paix, comme l'annonce le prophète Zacharie, mais pas forcément une paix terrestre, quoique il le fait entre nous, mais surtout pour établir la paix entre nous et Dieu. Mais Jésus est également venu pour donner volontairement sa vie en échange de la nôtre. Le mal que nous faisons, je l'ai déjà dit, nous condamnait à une éternité loin de Dieu. Mais Jésus, qui était pur de tout mal, est venu payer le prix de notre condamnation. Il a payé pour les coupables alors que lui est le seul juste. Et depuis lors, tous les hommes qui se reconnaissent coupables et qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, tous sont pardonnés. Le sacrifice de Jésus devient un sacrifice pour eux. Nous sommes alors au bénéfice de l'œuvre de Jésus pour nous. Et par la mort du Christ, nous recevons cette fois la vie éternelle auprès de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu que nous reconnaissons alors comme notre Seigneur et Sauveur, devient notre roi. Ce fameux roi qui est annoncé dans l'Ancien Testament, ce roi qui doit apporter la paix entre nous et avec Dieu. Ce roi qui doit délivrer les hommes, les délivrer du mal. Ce roi qui doit étendre sa souveraineté jusqu'aux confins du monde, parce qu'il est venu pour tous les hommes, pas que pour les Juifs de son temps. Le peuple n'a pas tout à fait tort. Il a bien reconnu en Jésus ce roi qui devait venir. Ils attendaient une délivrance physique, terrestre, sociale, là où Jésus est venu apporter une délivrance spirituelle pour l'éternité. Maintenant que nous avons expliqué tout ça, nous pouvons relire ensemble ce texte qui raconte l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et je lirai ce récit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 9. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagé, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire « Le Seigneur en a besoin » et on vous les laissera prendre immédiatement. » Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi qui vient à toi. Humble, il vient monter sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur ! Hosanna à Dieu, au plus haut des cieux !» La foule reconnaît en Jésus ce roi qui doit venir, ce fameux fils de David. Et quand ils le voient monter sur un âne et entrer en triomphe dans la capitale, Jérusalem, ils se disent « Ça y est, il va enfin se révéler comme le roi que nous attendons. Il va nous délivrer. » Et ils accueillent Jésus en triomphe. Malheureusement, dans les jours qui suivent, rien ne se passe. Jésus ne semble pas vouloir prendre le pouvoir. Au contraire, il n'arrête pas de répéter à ses disciples qu'il va bientôt mourir. Mais comment peut-il mourir s'il doit régner pour toujours? Alors certains sont profondément, terriblement déçus, au point même qu'un des plus proches disciples de Jésus va le trahir et le livrer aux autorités juives. Jésus sera arrêté, il sera battu, humilié, jugé, et il ne se défendra même pas. Personne ne comprend ces événements, même pas ses disciples les plus proches, ceux à qui il a tout expliqué, ceux à qui Jésus a parlé de sa mort et de la résurrection qui doit venir. Même eux ne comprennent pas. Tout le monde voit qu'ils se sont trompés. Jésus n'est pas le roi glorieux qu'ils attendaient pour leur donner la victoire. Et ils ont l'impression d'avoir été dupés. Leur admiration, leur adoration pour Jésus deviennent de la colère et de la haine. Leur acclamation de « Hosanna, gloire à toi, louange à toi » laisse alors la place à ce cri sordide. « Crucifie-le !» Voilà ce qui explique que le peuple passe en seulement quelques jours de l'accueil glorieux du Christ à sa mise à mort. Et nous, qu'en est-il pour nous ? Jésus est-il un imposteur qui a fait rêver les foules, puis qui les a déçus ? Si l'histoire s'arrêtait effectivement avec sa mort, Jésus ne serait qu'un imposteur. Mais un autre événement nous donne la preuve de la divinité du Christ, la preuve qu'il n'est pas mort parce qu'il était coupable. Cet événement, c'est la résurrection. Jésus est bien mort, mais il est ressuscité 3 jours après. Il est venu donner sa vie à cause du mal qui est en nous, mais comme lui n'a jamais fait le mal, comme il est innocent, la mort n'a pas pu le garder. Il ne méritait pas de mourir, parce qu'il est le seul juste, parce qu'il est Dieu en personne. Alors, sa vie, qu'il a donnée pour nous, il l'a ensuite reprise, pour venir ensuite nous appeler, venir à notre rencontre, venir nous accueillir dans cette vie éternelle qu'il nous offre. Une vie à passer auprès de lui et auprès de Dieu. La résurrection est la preuve que Jésus était bien ce roi qui devait venir, ce fils de David que l'humanité attendait et qui devait délivrer les hommes du mal qui les coupait de Dieu. L'entrée de Jésus à Jérusalem, l'événement des rameaux, marque le début de notre cheminement vers Pâques, vers le souvenir de la mort, puis de la résurrection du Christ. Et je souhaite que cette période, cette semaine qui s'ouvre à nous, puisse être pour chacun l'occasion d'un cheminement intérieur. Que nous puissions nous souvenir de ce que le Christ a dû subir par amour pour nous. Que nous puissions remercier Dieu durant cette semaine particulièrement pour son amour et son œuvre pour nous. Que nous puissions nous tourner vers Dieu avec humilité et en reconnaissant le mal qui est en nous, le mal que nous faisons, en nous repentant de nos fautes, en demandant pardon à Dieu. Que nous puissions également accueillir, accepter le Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Que nous puissions accepter le cadeau qu'il nous offre gratuitement, la vie éternelle que Jésus nous donne en échange de sa vie à lui. Que nous puissions vivre la semaine qui commence dans l'humilité de notre condition humaine, dans la repentance face aux souffrances de Jésus pour nous, et dans la joie du salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ.